Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Nous étions dans l'univers de Béla Bartok. Ah, ça fait du bien de se nettoyer les oreilles comme ça avec un bon classique contemporain, mais quand même. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille sur les ondes de Canal M et je suis là pour vous faire la lecture des journaux, pas seulement pour vous désannoncer du Béla Bartok. Mais je vais donc maintenant passer à quoi ? Ah bah oui, à quelques-unes de vos opinions puisque nous sommes au début de la seconde heure de cette émission. Alors j'ai par exemple celle-ci qui est parue dans la presse, c'est un monsieur Pierre Ross qui s'exprime, ça s'appelle le bal des losers. Il est dit, vous connaissez sans doute l'histoire, le bal de fin d'année approche et un garçon doit trouver une fille pour l'accompagner, il fait une première demande à celle dont il rêve depuis longtemps, mais elle retarde sa réponse sans lui dire non. mais sans non plus lui permettre d'espérer. Il fait alors une seconde demande qui se termine comme la première. En désespoir de cause, il tente une troisième demande à une fille qu'il n'aurait certainement jamais invitée si les choses s'étaient déroulées autrement. Mais il n'a pas le choix. Un troisième refus compromet sa présence au bal. Elle accepte. Elle n'attendait qu'une invitation, n'importe laquelle. Tous les deux savent très bien qu'ils iront au bal des losers, mais ils iront au bal. Le projet Énergie Est de TransCanada est pour le Québec une invitation au bal des losers. Pour le comprendre, remontons un peu dans le temps, écrit M. Ross. Contrairement à d'autres producteurs de pétrole comme les pays du Golfe Persique, le Venezuela ou les pays de la mer du Nord, le pétrole canadien ne se trouve pas près de l'océan, mais au centre du continent. Cela n'est pas très grave tant que le pétrole traditionnel canadien se vendait à proximité. Mais après 2007 et la hausse du prix du pétrole, le pétrole issu des sables bitumineux devient rentable, pour peu que l'on puisse atteindre l'océan et l'exporter. Permettre à ce pétrole d'atteindre l'océan se résumait à inviter la plus belle fille au bal. TransCanada est confiant. Avec le pipeline Keystone XL, il pourra relier les sables bitumineux avec les raffineries du Golfe du Mexique. Il fait sa demande en 2008. Mais comme le pipeline doit traverser la frontière canado-américaine, il doit demander la permission au président américain. Ce dernier, préoccupé par les conséquences environnementales, n'a toujours pas répondu. On risque de rater le bal. Un concurrent, Enbridge, tente sa chance en 2010. Il invite les sables bitumineux à prendre le chemin de Northern Gateway vers l'océan Pacifique. Ils acceptent. Mais, encore une fois, les préoccupations environnementales et les droits amérindiens retardent la décision et ne laissent rien entrevoir de bon pour le bal. TransCanada n'a plus rien à perdre. Pour aller au bal, il doit inviter le Québec, ce qui lui permettrait de rejoindre l'Atlantique, son troisième choix. La demande est faite en mars 2014. Le bal lui coûtera cher. Un trajet de 4600 km au lieu de 1897 km pour Keystone XL. Et le Québec, ce n'est pas encore l'Atlantique, mais le Saint-Laurent. Qu'importe. Contrairement aux États-Unis et à la Colombie-Britannique, la belle province fait peu de cas des conséquences environnementales. C'est dommage, écrit Pierre Ross, que le Québec accepte de se sacrifier, de sacrifier sa réputation pour une invitation. Il serait préférable qu'il refuse à son tour et que les sables bitumineux demeurent dans le sol. Le fleuve peut être propre et attirant pour tellement d'autres activités. Mais c'est difficile de penser à long terme quand on a une mentalité de « loser ». Monsieur Régent Hébert n'est plus ministre de la Santé, il est redevenu simple professeur à l'Université de Sherbrooke et donc il a tout à fait le droit de s'exprimer dans les pages dites d'opinion. Et là, il écrit ceci. Le docteur Barrett prétend faire disparaître les agences. La réforme les conserve au contraire, en augmentant le nombre, 4 de plus à Montréal, et en élargit les fonctions en leur confiant aussi la prestation des services. Vous aurez compris qu'il revient sur la réforme annoncée par le docteur Barrett, qui d'après lui est une vaste opération de centralisation et de contrôle qui est aux antipodes de l'évolution actuelle des systèmes de santé. Ce qui disparaît, dit Régent Hébert, ce qui disparaît dans les faits, ce sont les 182 établissements de santé locaux et spécialisés qui sont intégrés à ces méga agences régionales. La participation citoyenne locale est complètement évacuée au profit d'une centralisation régionale et nationale. La démocratie est aussi abolie, car les membres des conseils d'administration des centres régionaux seront nommés par le ministre. En plus de brimer la population d'un engagement nécessaire dans les établissements de santé, une telle gouvernance ouvre la porte au favoritisme et aux ingérences politiques. Au sortir d'une commission Charbonneau, une telle approche est pour le moins téméraire. Le ministre nommera aussi les PDG et les PDG adjoints de ces centres, sans droit de regard du conseil d'administration, qui devra se résoudre à entériner les décisions du ministre par PDG interposé. Belle gouvernance, dit M. Régent Hébert. Comble de démagogie, le ministre prétend faire des économies de plusieurs centaines de millions de dollars en éliminant les agences, alors que le budget total de ces structures n'atteint pas la centaine de millions. en région, ces mégastructures centraliseront les services autour des villes-centres au détriment des zones plus éloignées. Les communautés locales n'auront plus aucune influence sur les services de santé qu'elles reçoivent. Non seulement le pouvoir et les budgets seront drainés vers le centre, mais les ressources humaines le seront aussi, accentuant d'autant les pénuries en zones périphériques. Joseph Stiglitz est un prix Nobel d'économie. Il est professeur à l'Université de Columbia à New York. Il écrit, c'est paru dans la presse, « L'austérité a échoué ». Selon un vieil adage, si les faits ne correspondent pas à la théorie, il faut changer la théorie. Mais trop souvent, il est plus facile de garder la théorie et de changer les faits. C'est en tout cas ce que semble croire la chancelière Angela Merkel et d'autres dirigeants européens partisans de l'austérité. Malgré les faits qui sautent aux yeux, il continue à nier la réalité. L'austérité a échoué, dit M. Stiglitz. Mais ses défenseurs prétendent le contraire sur la base de la preuve la moins tangible qui soit. L'économie n'est plus en chute libre. Mais si tel est le critère utilisé, on pourrait tout aussi bien affirmer que sauter d'une falaise est le meilleur moyen d'arriver en bas. Toute crise se termine un jour. Il ne faut donc pas conclure à la réussite d'une politique du seul fait de la reprise économique, mais l'évaluer à l'aune des dommages dus à la crise et du temps qu'il aura fallu pour en sortir. De ce point de vue, l'austérité a été un désastre complet. C'est évident si l'on considère les pays de l'Union européenne qui sont à nouveau au bord de la stagnation, si ce n'est d'une récession à triple creux, avec un chômage qui reste à des sommets et dans beaucoup de pays, un PIB réel par habitant, toujours inférieur à son niveau d'avant-crise. Même dans les pays qui s'en sortent le mieux contre l'Allemagne, comme l'Allemagne, depuis la crise de 2008, la croissance est tellement faible que dans d'autres circonstances, on la qualifierait de lamentable. Les pays les plus touchés sont en dépression. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'économie de l'Espagne ou de la Grèce, où près d'un quart de la population et plus de la moitié des jeunes est au chômage. Il y a 3 ans, les Français ont voté en faveur du changement. À la place du changement, ils subissent une dose supplémentaire d'austérité au bénéfice des entreprises. L'une des propositions les mieux enracinées en matière d'économie est de rechercher un multiplicateur budgétaire équilibré, soit l'augmentation simultanée des impôts et des dépenses pour stimuler l'économie. Ce multiplicateur peut être particulièrement élevé si les impôts visent les riches et que les dépenses sont orientées vers les pauvres. Mais sous les applaudissements de l'Allemagne, le prétendu gouvernement socialiste de la France baisse la fiscalité des entreprises et diminue les dépenses, une recette pour affaiblir l'économie presque à coup sûr. Cette politique repose sur l'idée que la baisse de la fiscalité des entreprises va stimuler l'investissement. C'est une absurdité, continue de dire Joseph Stiglitz. C'est l'insuffisance de la demande qui limite l'investissement, tant aux États-Unis qu'en Europe, et non les impôts. Étant donné que la plupart des investissements sont financés par la dette et que le versement des intérêts est déductible d'impôts, le niveau de la fiscalité des entreprises n'a que peu d'effet sur l'investissement. Toute la souffrance infligée aux Européens, au service d'un artifice créé par l'homme, à savoir l'euro, est d'autant plus tragique qu'elle est inutile. L'Allemagne et d'autres faucons ont doublé la mise sur l'austérité, jouant l'avenir de l'Europe sur une théorie discréditée de longue date, alors que les preuves de son inefficacité s'accumulent. Inutile d'en fournir des exemples supplémentaires aux économistes. Et puis pour finir, c'est un monsieur Stephen Pilote qui envoie ce message ce matin dans la presse. Ça s'appelle profilage physique. En réaction, dit-il, à une discrimination sécuritaire publiée dans la presse samedi dernier. « Je suis paraplégique depuis l'âge de 12 ans », écrit Monsieur Pilote. « J'ai maintenant 51 ans. J'ai souvent été confronté à cette mentalité obsédée par la sécurité. » Je me souviens de 2 événements où mon handicap m'a placé dans la catégorie des citoyens de deuxième classe. Un chauffeur de taxi du transport adapté a poussé mon fauteuil roulant jusqu'au poste de sécurité du cégep, sous prétexte qu'il devait s'assurer que j'étais en sécurité. J'ai eu beau protester, que je pouvais me déplacer, il n'y avait rien à faire. Une autre fois, écrit M. Pilote, je suis allé voir un spectacle au Spectrum. L'agent de sécurité m'a demandé de me placer à un endroit précis pour assister au spectacle. Je lui fais remarquer que je ne verrai rien. Mais il me répondit que c'était pour ma sécurité en cas de feu. Ce genre de profilage physique est quelque chose de très répandu, nous apprend Stephen Pilote. Ce n'est pas à Cuba que nous partons, mais bien à Hong Kong où se poursuit la révolution des parapluies. C'est dans Le Devoir, la campagne de désobéissance civile qui couve depuis des semaines à Hong Kong tenait bon lundi, alors que des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie se sont installés pour une nouvelle nuit d'affrontement avec la police dans le centre paralysé de la ville autonome sous tutelle chinoise. Alors que la nuit tombait, les milliers de protestataires qui bloquaient l'une des grandes voies principales ont allumé leur téléphone portable, formant une vague lumineuse dans le quartier d'affaires d'Admiralty et créant une atmosphère presque festive après les affrontements du week-end. Il y a une photo de cela et c'est vrai que c'est complètement saisissant de voir ces dizaines de milliers de téléphones cellulaires tous en train de flasher. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans les scènes de rue chaotiques auxquelles Hong Kong n'est guère habitué, les policiers avaient tiré dimanche dans la nuit des salves de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants rassemblés du cœur de l'île de Hong Kong et jusque dans Kowloon, sur le continent. La police a fait état lundi d'une quarantaine de blessés, dont 12 policiers et 78 arrestations. Les manifestants, qui ont aussi essuyé des jets de gaz au poivre, étaient pour la plupart vêtus de ponchos en plastique et s'étaient enveloppés le visage avec du film alimentaire pour tenter de se protéger. L'expression « révolution des parapluies » faisait florès lundi sur les réseaux sociaux en référence à cet accessoire familier dans la ville écrasée par le soleil ou noyée par les pluies de mousson et que les manifestants avaient déployé. Dans un geste apparent d'apaisement, le gouvernement de Hong Kong a annoncé le retrait lundi à l'aube de la police anti-émeute. En échange, les manifestants ont été invités à libérer les routes occupées dès que possible pour laisser le passage aux véhicules d'urgence et rétablir les transports publics. Le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles pour mardi dans deux des quartiers du centre. À Pékin, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chongying, a répété la position des autorités chinoises condamnant des actes illégaux qui nuisent à l'état de droit et à la sécurité publique. Pour Surya Deva, professeur à la City University de Hong Kong, on se dirige vers une impasse. Aucun antagoniste ne semble vouloir reculer et il est impossible de dire lequel finira par plier. En Espagne, la justice suspend le référendum catalan. La justice espagnole a suspendu sans surprise lundi le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, faisant suite au recours déposé par Madrid sans dissuader les nationalistes au pouvoir dans la région qui poursuivaient les préparatifs du scrutin. Cette journée a été marquée par un nouveau chassé-croisé de propos très vifs entre le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui accusait l'initiative de la Catalogne d'attenter à la souveraineté de l'Espagne, et le président de la région, Artur Mas, qui dénonçait la vitesse supersonique avec laquelle s'est réuni le tribunal constitutionnel. Ils ont franchi le mur du son, ils n'ont pas attendu un seul jour à ironiser Artur Mas avant même que ne soit connue la décision de justice. Quelques heures après le dépôt d'un recours par le gouvernement central, les magistrats ont en effet suspendu la consultation convoquée samedi pour le 9 novembre par Artur Mas, devant maintenant se prononcer sur le fond dans un délai maximum de 5 mois. Rien, ni personne, ni aucun pouvoir, ni aucune institution ne peut rompre ce principe de souveraineté unique, indivisible, sur lequel se fonde notre vie commune, avait affirmé Mariano Rajoy à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire convoqué lundi matin pour adopter ce recours. En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique resserrent leur étau sur Ain al-Arab, la troisième ville kurde de Syrie à la frontière avec la Turquie, au moment où Ankara examine son engagement militaire dans la coalition anti-EI. Les combattants du groupe extrémiste n'étaient plus lundi qu'à 5 kilomètres de cette ville stratégique appelée Kobané en kurde, dont le centre a été pour la première fois touché par des roquettes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La quinzaine de roquettes lancées par les djihadistes sur le centre-ville a fait 3 morts, selon l'ONG, qui a précisé que l'EI ne s'en était jamais approché aussi près depuis le début, il y a 2 semaines de son offensive, dans la région. S'il faisait sauter ce verrou, les djihadistes contrôleraient une longue bande territoriale continue au nord de la Syrie, le long de la frontière turque. Leur assaut a entraîné un exode massif de population, au moins 160 000 personnes ayant traversé la frontière pour se réfugier en Turquie, qui n'a eu d'autre choix que d'ouvrir sa frontière. Des miliciens du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ont alors fait le chemin inverse pour aller prêter main forte à leurs frères syriens assiégés. La pression djihadiste sur Ain al-Arab n'épargne pas la Turquie, puisqu'au moins 3 obus de mortier venant de la zone des combats ont atteint son territoire depuis dimanche. En réaction, Ankara a renforcé lundi son dispositif militaire autour du poste frontière de Mursitpinar, en y acheminant plus d'une dizaine de chars et des véhicules blindés. En France, le Front national entre au Sénat. Au réveil, hier matin, les Français avaient 2 élus du Front national au Sénat, écrit Émilie Côté dans la presse. Une première présence du parti d'extrême droite au Sénat depuis le début du régime de la Ve République en 1958. L'unique règne de la gauche à la Haute Assemblée de France n'aura duré que 3 ans. Au terme des élections sénatoriales qui avaient lieu dimanche, la droite a repris comme prévu le contrôle du Sénat, 190 sièges contre 156. Cela confirme à la fois la faible popularité du président François Hollande, le retour en force de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, et la montée du FN. Le parti de Marine Le Pen a obtenu 4 fois plus de votes que prévu, après avoir ravi en mars dernier une douzaine de villes lors des élections municipales. Certes, c'est historique, mais le Front National a été favorisé par le mode de scrutin proportionnel et par une conséquence mécanique des élections municipales. Nuance le professeur à Sciences Po, Martial Foucault, qui a aussi enseigné 7 ans à l'Université de Montréal. Il ne faut pas ignorer le phénomène, mais aucun sénateur du FN n'aurait pu être élu avec un mode de scrutin majoritaire. Et puis enfin, on fait le tour du globe. Au Burundi, un célèbre militant des droits de l'homme du Burundi s'est vu accorder une remise en liberté provisoire hier pour des raisons de santé. Emprisonné depuis le mois de mai, Pierre Claver Mbonimpa est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État pour avoir affirmé à la radio que de jeunes Burundais proches du pouvoir recevaient une formation militaire en République démocratique du Congo voisine à 1 an de l'élection présidentielle. Le président américain Barack Obama avait appelé à sa libération la semaine dernière. Toujours autour du globe, en Méditerranée, un nombre record de migrants, plus de 3000 ont péri en Méditerranée depuis janvier, soit plus du double que lors du pic de 2011, année du printemps arabe, a déploré hier l'Organisation internationale pour les migrations. En Ukraine, la création d'une zone tampon a été perturbée hier par la poursuite des combats dans l'est de l'Ukraine qui ont fait 13 morts, dont 9 soldats, le bilan le plus meurtrier depuis l'instauration d'une trêve au début du mois de septembre. Plus d'une semaine après la conclusion d'un accord à Minsk, ouvrant la voie à une trêve durable, la paix n'est toujours pas assurée dans les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk, théâtre en 5 mois de combats qui, on le rappelle ici dans la presse, ont fait plus de 3200 morts et provoqué l'exode de plus de 600 000 civils. Et puis enfin, aux Pays-Bas, il y a eu un triste accident avec un 4x4 géant qui s'est emballé. Vous savez, ce sont ces espèces d'énormes camions avec des roues, comme des roues de camions en fait, mais c'est plus une petite vanne, mais sur des roues de camions. Eh bien, le Monster Truck en question, aux roues surdimensionnées, a dévié de sa trajectoire dimanche avant de percuter des spectateurs au cours d'un spectacle. Et c'était aux Pays-Bas. Et le véhicule dont le conducteur a été arrêté avait dévié de sa trajectoire au-dessus de plusieurs voitures écrasées avant de heurter plusieurs personnes dans la foule rassemblée dans la petite ville d'Axbergen, dans l'est des Pays-Bas. C'est pas une nouvelle que j'avais lue ici à cette émission-là, mais j'avais lu le matin même que 2 adultes et 1 enfant, notamment, ont été tués par ce camion-là. Voilà, vous écoutez Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Je continue de vous faire la lecture des journaux jusqu'à midi.